7h57 minutes, vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, c'est Boulevard Against le matin, avec Jeff Fortin, Max Larouche et Mathias Turcotte. Max, ça continue de brasser en circulation.
Pas le choix de le rappeler, Capitale Ouest, hauteur Boulevard Saint-Jacques, la voie de gauche qui est bloquée, débris dans les voies également, gros accident là, qui fait que présentement, Capitale Ouest, Boulevard Saint-Jacques à peu près jusqu'à l'avenue du Beau-Royal, ça ressemble pas mal plus à un parking qu'à une autoroute.
On s'en va rejoindre une personne qu'on a appris à apprécier énormément ici sur les ondes de Boulevard 101. Il était avec nous à la soirée électorale du 28 avril. Il collabore avec nous depuis ce temps-là dans l'émission du matin. Lambert Drainville, comment ça va, mon ami?
Bonjour, messieurs. Très content de vous retrouver.
Cool. Lambert Drainville, chroniqueur politique sur différentes plateformes web. Un peu un Farnel Morissette, je dirais, d'Instagram. Je me trompe-tu en disant ça?
Non, absolument pas. C'est une belle inspiration pour moi, mon cher ami Farnel. Je l'aime beaucoup.
Excellent. On commence avec la commission Galant, mon cher ami Lambert. À quoi tu t'attends aujourd'hui du témoignage de François Bonnardel?
Ouais, ben écoute, le niveau de stress doit avoir monté quand même d'un cran. Là,
depuis deux jours.
Ouais, c'est ça. Quand il a vu comment ça s'est passé avec les membres présents et anciens membres de son cabinet, là. Écoute, c'est assez fou quand tu regardes ce qui sort de cette commission-là, là, dire qu'au début, on n'était pas sûr s'il fallait une commission d'enquête publique, etc. Là, Dieu sait qu'on regarde ça aujourd'hui, puis on se dit non seulement il en fallait une, mais une maudite chance qu'on en a fait une. C'est vraiment le festival de la déresponsabilisation. Si tu regardes un peu comment ça se passe jour après jour à cette commission-là, là, c'est comme si tu avais un scandale qui s'était faufilé entre des hauts dirigeants de la SAQ. La SAQ qui ont fait la sourde oreille à leur lanceur d'alerte à l'interne, des fonctionnaires qui ont peint un portrait qui est beaucoup plus beau que la vraie situation aux employés politiques notamment, et ces mêmes employés politiques-là qui ont avalé le Kool-Aid sans trop poser de questions, probablement ouais. Parce qu'ils savaient qu'en posant des questions, ben, ils allaient obtenir des réponses qu'ils n'aimeraient pas.
Moi, mais pourtant, Alain Généreux était tellement perspicace et picasso, vraiment.
Ben, le pire, c'est que je l'ai connu, moi, Alain Generous, qu'on l'appelait à l'interne. C'est vraiment un employé politique qui avait une excellente réputation. Là. C'est quelqu'un qui était très compétent. Mais c'est sûr que quand tu regardes ça avec son témoignage à la commission Galant, ça paraît pas bien. C'est sûr qu'il faut se mettre dans ses souliers là, quand ça s'est mis à péter, lui, durant la pandémie. Là. Quand il disait que le cabinet était beaucoup plus en gestion de crise de ce qui passait dans les points de service de la SAQ, moi, je suis convaincu que c'est vrai. Là. Je suis convaincu que le gros de la job du cabinet à ce moment-là, c'était de la gestion de crise jour après jour, de combien qu'on a de points de service qui fonctionnent, combien qu'on a de points de service qui ne fonctionnent pas, puis il se concentrait beaucoup là-dessus. Là, maintenant, le ministre Bonnardel doit être hyper stressé, évidemment, d'arriver là aujourd'hui. Il va devoir répondre. Son cabinet, visiblement, était au courant. Lui, quand l'affaire était sortie avec le rapport de la VG, était sorti à l'Assemblée nationale pour dire « On m'a menti, on vous a menti, on nous a menti. » Ben là, après avoir entendu le témoignage de ses différents employés, on a peut-être l'impression que c'est pas exactement ça, la vérité.
Ben, on s'entend dessus. On s'entend-tu, Lambert, que François Bonnardel peut plus bien s'en sortir? On dirait qu'avec ce qui a été dit dans les derniers jours, là, aujourd'hui, je m'attends à ce qu'il se fasse poivrer puis qu'il ne puisse pas vraiment se sauver à la face.
Ben, la question, ça va être qu'est-ce que lui savait? Parce que, encore une fois, pour l'avoir vécu à l'interne, il y a une différence entre ton cabinet est au courant et le ministre est au courant. C'est pas quelque chose qui est rare en politique. Malheureusement, je te dirais de ne pas transmettre certaines informations au ministre dans le but de le protéger. Alors, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que M. Bonnardel, lui, spécifiquement savait. Mais une chose qui est sûre, Max, c'est que tu as absolument raison. Là, le commissaire Galant était très échaudé hier, il n'était pas satisfait des réponses qu'on lui donnait. Il risque un petit peu d'être dans le même état d'esprit aujourd'hui. Et dans tous les cas, pour un gouvernement qui essaye présentement d'envoyer le message qu'ils veulent un vent de renouveau, qu'ils veulent repartir la machine, c'est pas juste un caillou dans le soulier. Tu as toute l'entrée en garnotte dans ton soulier présentement.
C'est ça.
Monsieur Legault et son gouvernement, ça commence vraiment à être pesant. Là.
Sur un plan individuel, puis ça va nous faire passer justement à ce fameux remaniement ministériel-là, est-ce que François Bonnardel et Geneviève Guilbeault jouent leur carrière politique et leur place au sein du Conseil des ministres cette semaine?
Oui. Absolument. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que le bureau du premier ministre, leur plan, en fait, je te confirme pour.
Ouais, c'est stratégique d'attendre leur passage à la commission Galland avant de faire le remaniement. Hein.
Oui, c'est stratégique. Le plan, quand, en ce qui a trop. Tu sais, un remaniement ministériel, ça se décide vraiment jusqu'à la dernière seconde avec toute l'information qui va être à leur disposition à ce moment-là. Puis, une chose qui est certaine, c'est que les employés du bureau du premier ministre, les quelques conseillers très proches de François Legault qui sont impliqués dans ce remaniement-là, regardent ce qui se passe à la commission avec grand, grand intérêt. Et oui, pour répondre à ta question, ça va jouer absolument sur non seulement le poste qu'on va leur donner au sein de ce conseil des ministres-là, mais possiblement leur participation. À ce conseil des ministres-là.
Ben, sautons justement dans le conseil des ministres. Est-ce que tu t'attends à ce que tout bouge? Est-ce que tu t'attends à ce qu'un ou deux ministres conservent leur rôle? Tu sais, je sais que ici, hier, on en a parlé, puis pour ce qui est de Christian Dubé, on s'attend tous à ce qu'il reste à santé. Mais pour le reste, es-tu d'accord que tout peut vraiment bouger?
Oui, moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intouchables. Je pense que M. Dubé, malgré qu'il soit dans le haut de ma liste de ceux qui ont des fortes chances qu'il demeure en poste à la santé, n'est même pas lui-même intouchable. Je pense que on va avoir beaucoup de surprises de l'information qui m'est parvenue. Ce ne sera pas un exercice qui va être seulement superficiel. Il va vraiment falloir que ça brasse pour vrai pour que le PM atteigne son objectif vraiment d'envoyer un message. Tu sais, si on fait des mathématiques rapides, tu as 29 ministres présentement. Moi, ce qu'on me dit à l'interne, c'est qu'on va vouloir un conseil des ministres qui est plus petit ou à tout le moins la même grosseur, mais certainement pas plus gros. Fait que mettons qu'on est à 29, puis on veut descendre ça à 26, puis en parallèle, on veut que 3 députés qui n'étaient pas ministres deviennent ministres. Bien, ça veut dire qu'il faut que tu sortes 6 ministres présentement son ministre qui perdrait leur poste. Écoute, 6 ministres, c'est 20% du Conseil des ministres.
C'est énorme. Donc,
c'est énorme. Puis c'est un exercice qui est bien beau en pratique de dire « Hey, on fait un remaniement, let's go, vendre un nouveau. » Mais c'est tout un casse-tête. Il faut se rappeler pour le premier ministre d'un point de vue stratégique. Là, premièrement, tu veux des gens qui sont compétents, des gens qui vont être habiles dans leurs différents dossiers. Quelqu'un qui a un profil économique se retrouverait avec, dans la mesure du possible, un dossier à saveur économique.
Oui, puis tu n'as pas le choix dans une dernière année comme ça, avant les élections, Lambert, d'avoir des gens qui vont vraiment être en mesure de s'approprier les dossiers rapidement. Là.
Ouais, puis bien honnêtement, ça va être difficile avec le temps qui reste pour eux de se familiariser avec leur dossier d'ici à l'élection, puis vraiment d'avoir un impact. Fait que ça, le bureau du premier ministre en est bien conscient. Ils doivent respecter les règles par rapport au nombre de ministres hommes, au nombre de ministres femmes, fait que la parité, les règles par rapport à la représentation régionale, dans la mesure du possible, tu veux des ministres dans le plus grand nombre de régions possible au Québec. Puis tu as le côté humain aussi. On parle beaucoup d'eux autres comme si c'était des pions. On envoie lui à telle place, on envoie lui à l'autre place. Mais rappelez-vous que ce sont des êtres humains et qu'une déception mal gérée, des attentes, des égos froissés, bien, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire que des ministres qui auraient été démis de leur fonction, bien, pourrait se dire, ben là, moi, si je suis pas pour être au Conseil des ministres, fuck off, moi, je quitte la politique. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben là, tu te retrouves avec une autre élection partielle. Puis laissez-moi vous dire, messieurs, que présentement, la dernière affaire que le gouvernement François Legault veut, c'est une quatrième partielle de suite, possiblement une autre défaite avant l'élection.
Clairement. Ici, dans la région de la capitale nationale, on parle beaucoup de Jean-François Simard, l'ancien député et ministre péquiste, qui prendrait la place de Jonathan Julien comme ministre de la capitale nationale. Je pense que ça serait pas une surprise, ça, si ça arrive.
Pour moi, ce serait une surprise, en toute transparence. Je regardais la région de Québec, en tant que gars de Québec, évidemment, moi-même, toujours un intérêt très, très grand pour ce qui se passe à Québec. Moi, sais-tu, je pense qu'ils vont peut-être essayer de donner les deux régions à Bernard Drainville. Je pense que c'est quelque chose à laquelle ils ont
Je peux me permettre une blague. T'as-tu des informations privilégiées? Ou...
Non, j'ai pas d'informations privilégiées, mais c'est quelque chose qui se voudrait logique là, dans la mesure.
Non, c'est vrai, t'as raison.
Mais dans la mesure où t'en as beaucoup, tu sais, des ministres qui poussent, tu penses à Samuel Poulain en Beauce qui lui. Tu sais, ça pourrait être ça aussi. Peut-être Samuel Poulain prendrait Appalaches.
C'est un bon point.
Et Bernard Drainville prendrait Québec, prendrait Capitale Nationale parce que malgré qu'il soit député de Lévis, il habite sur la rive nord depuis un bon moment. Moi, je pense que Geneviève Guilbeault, comme on se disait, ça va beaucoup dépendre de ce qui se passe à la commission Galland. Jonathan Julien, moi, si j'étais lui, je serais très stressé Je serais très stressé.
Ben là, ça fait plusieurs points de presse qui se sauvent des journalistes et qui ne font pas le fameux scrum. Là.
Ouais, puis je trouve pas que c'est quelqu'un qui a eu un gros impact. Je trouve pas que c'est quelqu'un qui a tiré le gouvernement vers le haut. J'ai l'impression qu'avec son portefeuille qu'on lui a donné après l'élection de 2022, là, les infrastructures, là, c'était un peu un genre de façon de s'assurer d'avoir un député de la région de Québec qui était en mesure de prendre capitale nationale, qui n'était pas Geneviève Guilbeault parce que ses relations avec le maire étaient, disons, plutôt tendues. Et là, considérant qu'on lui a un peu donné un portefeuille au hasard avec les infrastructures, qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert, qu'est-ce que ça change d'avoir quelqu'un dans ce poste-là, je le vois peut-être quitter le Conseil des ministres pour céder sa place à quelqu'un d'autre.
Lambert Drainville, le poste de vice-premier ministre ou de vice-première ministre, là, je comprends que peut-être ça va dépendre de ce que Geneviève Guilbeault nous dit ou nous dit pas à la commission Galant dans les prochains jours, mais est-ce que tu touches à ça?
Moi, je pense que ça fait partie des grandes questions qui demeurent en suspens, comme tu le disais avec Galant. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'étoffe ou, disons, le statut pour avoir ce titre-là. Au sein du gouvernement, présentement, je verrais peut-être Simon-Jolin Barrette qui pourrait prendre ce genre de poste-là. Je verrais peut-être Sonia Lebel qui pourrait prendre ce poste-là, mais...
C'est vraiment, les deux que j'ai nommés hier aussi.
Ouais, c'est ça. Je suis bien d'accord avec toi. Là, j'en vois pas vraiment d'autres. Ça va être vraiment intéressant, bien honnêtement. C'est extrêmement compliqué comme exercice. Puis la vérité, messieurs, là, c'est que ça va absolument rien changer. Là. On l'a vu au courant de l'histoire. Ça fait pas... Généralement, l'objectif des différents gouvernements qui font ça, c'est toujours des gouvernements pour qui ça va pas super bien, qui veulent envoyer un vent de renouveau. Mais l'histoire nous a démontré que c'est un exercice qui est surfait. Là. T'sais, encore dans le léger qu'on a vu sortir avant-hier ou c'était hier, il y a 58% des gens là, qui disaient que ça ne donnerait pas du tout un nouvel élan aux troupes de François Legault. Mm-hmm. 23% qui disaient oui. Et tu sais, la vérité, c'est que les gens dans ce même sondage-là disaient que les gens, là, la personne qui veulent voir quitter ses fonctions, là, il s'appelle François Legault. Mmh. C'est ça que les gens n'écoutent plus François Legault présentement.
Est-ce qu'il va s'accrocher jusqu'en 2026, selon toi, Lambert?
Moi, je pense que oui. Il semble encore convaincu à son entrée du Conseil des ministres cette semaine. Mais tu sais, s'il y a bien une personne qui bougera pas dans ce remaniement ministériel-là, c'est lui.
Ouais, c'est ça. Et ça devrait être peut-être pour relancer la CAQ la personne qui, justement, bougerait.
Ben, c'est la personne qui, tu sais, c'est présentement, autant que c'est celui qui est le grand responsable de leur victoire historique en 2022, présentement, c'est avec lui que ça ne passe pas pour les Québécois. Là.
Prorogation du gouvernement. Luc Ouellet, stratège politique sur les ondes de TVA, hier a parlé de ça, que ça pourrait être une stratégie pour la CAQ. Il a appelé ça l'opération sauve qui peut. On proroge le gouvernement, on met fin à plein de projets de loi comme ça qui sont en suspens, puis on repart la machine avec une page blanche. Tu y crois-tu? Moi, je trouve ça vraiment trop gros.
Ah, moi, je trouve pas ça trop gros. Je trouve que c'est plutôt bénin même, je te dirais. C'est une passe-passe parlementaire. Hein. Je pense que les gens qui sont à l'écoute là, ne doivent même pas d'ailleurs savoir en grand nombre qu'est-ce que ça veut dire, là, proroger. Là, proroger, dans le jargon, c'est de mettre fin à une session parlementaire et en commencer une nouvelle. Présentement, on roule sur la même session depuis l'élection de 2022, depuis novembre 2022. T'sais, moi, ce que j'entends, en fait, c'est qu'au gouvernement, il n'y a rien qui est exclu dans le moment. Présentement, évidemment, qu'on se concentre sur ce qui se passe à la commission Galant, on se concentre sur le remaniement ministériel. Le reste, les autres questions vont venir après. Mais t'sais, dans l'optique où le nouveau spin du premier ministre et du gouvernement, c'est nouveau départ, écoute, humilité. Moi, je pense que dans cette lignée-là, de proroger le Parlement pour envoyer le message que, regardez, on fait table rase, on se recentre sur nos priorités, ça permet au premier ministre de faire un discours d'ouverture où il va parler, justement, de ces nouvelles priorités-là. Moi, je pense que oui, effectivement, ça s'inscrirait dans le narratif d'un petit peu relancer la patente. C'est un peu ce que Pauline avait fait quand elle avait prorogé elle-même le Parlement en octobre 2013 là, pour repartir sur des bases plus solides ou envoyer un nouvel élan avec l'épisode de la Charte des valeurs, vous vous rappellerez à cette époque-là.
Oui, c'est vrai.
Fait que ce serait un petit peu le même genre d'exercice, mais c'est le genre de choses qui a plus d'impact quand tu le fais en plein milieu d'une session. Là. Tu sais, quand tu es en plein milieu du mois d'octobre, du mois de novembre, puis là, bang, tu arrêtes ta session, tu mets fin à la session, tu en repars une nouvelle deux semaines plus tard. Là, vu qu'on sort d'un ajournement qui a duré tout l'été, tu sais, c'est un petit peu comme si au retour des classes là, d'école après deux mois d'été, le prof, au début de l'année, il annonçait qu'on change de cahier puis on recommence un nouveau cursus. Ben là, c'est parce qu'au début d'une année, d'habitude, c'est un peu normal qu'on change de cahier puis qu'on amorce un nouveau cursus. Fait que ça a comme pas le. Ça n'aurait pas l'impact aussi frappant que de le faire en plein milieu de l'année parlementaire.
En effet, t'as entièrement raison. Vous pouvez le suivre sur différentes plateformes informatiques web. C'est un chroniqueur politique très, très, très apprécié ici à Boulevard 102.1. Lambert Drainville, c'est pas la dernière fois qu'on se parle cette année. Je te remercie infiniment pour ta contribution à l'émission de ce matin.
Toujours intéressant de vous parler, messieurs. À bientôt.
Nice. Salut. À bientôt, Lambert. Alors, c'était Lambert Drainville. C'est intéressant de parler à Lambert parce qu'il y a encore plein de contacts, justement, au sein présentement de la CAQ pour y avoir déjà travaillé.
Puis l'expérience aussi d'avoir travaillé avec des membres de gouvernement.
Exactement.
Il y a des choses que nous, on voit pas nécessairement ou qu'on voit pas de la même façon.
Ah oui. Fait que toujours très intéressant de parler avec l'ami Lambert Drainville qu'on va, là, justement, là, entendre sur les ondes de Boulevard 102.1. Là, ici le matin, là, à plusieurs occasions. C'est le temps de faire une courte pause. Il est 8h13. Par la suite, lorsqu'on revient en onde, on sera avec Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois, critique en matière de transformation numérique également pour le PQ. Évidemment, on va parler avec lui de la commission Galant, du passage de François Bonnardel aujourd'hui à cette même commission Galant. Mais j'ai l'impression, Max, qu'on va lui poser quelques questions sur souveraineté, premier mandat, Lucien Bouchard.
Et j'aimerais ça, puis c'est pas lui qui va le faire avant son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, mais qu'on commence, du côté du Parti québécois, à ouvrir la porte à pas faire de référendum dans un premier mandat, parce que on sait tous très bien qu'il n'y en aura pas de référendum dans un premier mandat.
Exactement. Alors, restez avec nous. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, c'est Boulevard Against le matin.
Jusqu'à 10h, Boulevard.